que va-t-il arriver dans l'Ukraine, en Israël, en Palestine, l'Ebola en Afrique, le problème de racisme aux États-Unis, est-ce qu'on va légaliser la pot, qui est-ce qu'on aura comme premier ministre du Canada dans quelques mois? Mes chers amis, j'aimerais vous suggérer, j'aimerais vous dire aujourd'hui qu'il y a une question plus importante que cela. Jésus-Christ parlait avec ses disciples un jour, puis il a dit ceci, « Qui suis-je au dire des hommes? » Et j'aimerais vous poser la question aujourd'hui, qui est Jésus-Christ? Pour beaucoup de nous Québécois, puis je me considère comme Québécois, je casse l'anglais, je casse l'allemand, je casse le français aussi, vous l'avez vu. Qui est ce Jésus? Est-ce que c'est un Jésus républicain, conservateur, qui veut réduire les taxes, puis enlever les juges qui sont trop activistes, puis qui veut que tout le monde ait une fusil chez eux? Est-ce que c'est un Jésus libéral qui est contre la bourse, puis Walmart, puis qui veut réduire les émissions? Est-ce que c'est un Jésus qui est thérapeute, qui veut nous aider avec nos problèmes de notre vie? Est-ce un Jésus qui aime tout le monde? Est-ce un Jésus qui aide aux athlètes de faire des touchés puis des buts? Il faudrait que les Alouettes aient quelqu'un comme ça, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un Jésus qui est un simple martyr? Est-ce que c'est un Jésus qui est un newpie, qui nous aide à atteindre notre potentiel puis veut qu'on soit bien en nous-mêmes? Qui est Jésus? Et ce matin, notre sœur va lire pour nous dans l'épître de Philippiens, les paroles de l'apôtre Paul, inspirées par le Saint-Esprit de Dieu, qui nous explique en quelques mots qui est Jésus.
Du livre des Éphésiens, au chapitre 2, les versets 5 à 11, dans l'édition Louis II. Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'étant dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu notre Père.
Merci. Nous allons regarder ce passage ce matin sous quatre titres. Nous allons regarder le point de départ parce que nous avons comme une parabole, comme on a vu dans les statistiques il y a bien des années, une parabole. Il y a un point de départ avec la personne de Jésus. Puis on va voir qu'il descend. Puis on voit qu'il remonte, troisièmement. Puis on va tirer une conclusion. Prenons le point de départ. Le passage nous dit comme point de départ que Jésus en dit existant en forme de Dieu, puis en dit égalité avec Dieu. Son existence, son commencement, égal avec Dieu. William Barclay, en parlant des mots grecs qui sont utilisés ici, nous dit que c'est cette partie d'une personne qui, dans toutes les circonstances, demeure la même. Jésus est égal avec Dieu. Ça nous dit que Jésus existait en forme de Dieu. C'est intéressant que dans l'original, le mot utilisé ici est le mot morphé. Vous le connaissez ce mot-là, métamorphose. Vous avez vu des chenilles qui deviennent des papillons. Morphé, forme. C'est un mot important parce que Paul écrit à l'église de Grec. Il écrit à l'église de Philippe. Et pour ceux qui ont dû étudier le philosophie au cégep, vous vous souvenez peut-être que pour Platon, Les choses qu'on voit ne sont que des apparences, puis que quelque part en arrière, il y a des formes qui sont la réalité. Et Paul utilise la même expression que Platon ici. Et le mot morphée nous parle de la forme essentielle, de ce qui ne peut changer. Il y a deux mots différents dans l'original que Paul aura pu utiliser pour nous dire en quel sens que Jésus était comme Dieu. Il y a le mot morphée que vous connaissez, puis il y a un autre mot que vous connaissez, schéma. Le mot schématique vient de ce mot-là. Schéma nous parle de la forme extérieure qui change de temps en temps. Morphée nous parle de forme essentielle qui ne peut changer. Baby, enfant, adulte. Moi, j'ai des petits-enfants qui ont 2 ans. J'ai un fils qui a presque 40 ans, qui est un adulte. Alors, j'ai vu mon fils qui était baby devenir un ado, devenir un adulte. La forme a changé, mais à l'intérieur, ce qu'il est vraiment n'a pas changé. Et Jésus-Christ est homme dans son essentiel, dans la partie de lui qui ne peut pas changer. Et aussi, le passage nous dit que Jésus est égal avec Dieu. Égal avec Dieu. C'est un mot qu'on connaît. Est-ce que vous vous souvenez dans la géométrie? Je sais que vous avez tous aimé la géométrie à l'école. Hein? Il y a ces triangles qui sont isocèles. Ça veut dire, si je me souviens bien, que les deux côtés sont exactement la même longueur. Le mot isomère. Et comme ça, là, j'ai fait faire ma couverture dernièrement, puis j'ai pris une couverture isomère, où c'est tout uni, puis ça ne coulera plus jamais, j'espère. J'ai 68 ans, j'espère que c'est celle qui va acheter la maison quand je vais mourir, qui va faire la couverture la prochaine fois, n'est-ce pas? Alors, voilà, ça veut dire uni, égal. Notre Seigneur Jésus-Christ est identique à Dieu. Et une répétition ici pour mettre l'emphase. Jésus est Dieu. J'ai écrit ceci. Il n'y a qu'un seul et unique Dieu qui existe éternellement et qui se manifeste en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chaque personne est Dieu. Dans tous les sens, chacun complètement et éternellement Dieu. Il n'y a pas 3 dieux, mais il y a 3 personnes dans un seul Dieu. Et chaque personne de la Trinité est égale en son existence personnelle essentielle. Puis chacune possède la même nature divine. Chacune est l'expression éternelle et personnelle de cette nature qui ne peut être divisée. Jésus est Dieu, c'est le point de départ ici. Jésus est autant Dieu que Dieu le Père. Je vais le répéter. Jésus est autant Dieu que Dieu le Père. Il est éternel. Il est sans commencement. Il n'a pas de fin. Il est Dieu dans tous les sens du mot. Mais il n'est pas le tiers de Dieu. Nous, on est un peu influencés par la pensée grecque, puis on voudrait séparer les choses, mais Dieu ne peut pas diviser une chair, c'est Dieu le Père, puis une chair, c'est le Christ, puis une chair, c'est l'Esprit. Non, ça ne marche pas comme ça. Il possède exactement la même nature divine que le Père et le Saint-Esprit. Une dernière chose que je voudrais dire sur l'origine de Jésus-Christ ici. Il y a une question que je me pose depuis un certain temps. Qu'est-ce que Dieu faisait avant qu'il crée l'univers? Je ne sais pas quel âge qu'il a l'univers. Il y a des personnes qui croient que dans Genèse, chapitre 1er, que les jours sont des jours de 24 heures et que l'univers a peut-être 6000 ans ou 10000 ans. Il y en a d'autres qui croient que l'univers a 8 milliards d'années. Puis je ne veux pas discuter de ça ce matin. Mais même si l'univers a 8 milliards ou 10 milliards d'années, c'est rien. C'est une infinie, infime partie de l'éternité. Puis longtemps avant que l'univers fût créé, Dieu existait. Il a toujours existé. Puis qu'est-ce que Dieu faisait avant de créer l'univers? Vous allez m'excuser, je suis un drôle de gars. Puis des fois, quand je ne dors pas la nuit, je pense à des choses comme ça. Je crois qu'il y a au moins 2 indices dans les Écritures qui nous, nous indique un peu qu'est-ce que Dieu faisait pendant l'éternité passée, avant la création de l'univers. Dans Jean 17, 24, nous lisons ceci, c'est la prière de Jésus. Puis il dit, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, regarde bien, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Pendant l'éternité passée, avant que l'univers existe, Dieu le Père aimait Dieu le Fils. C'est une relation éternelle. J'ouvre une petite parenthèse. L'autre indication que nous avons dans les Écritures, c'est que dans l'éternité passée, avant la fondation du monde, Dieu m'a choisi, puis il vous a choisi. Activité de Dieu le Père pendant l'éternité. Puis Dieu aime le Fils, n'oublions-le pas. Puis comme bon Québécois, lorsqu'on prend le nom de Jésus comme un sac, comme une insulte, comme une façon d'exprimer qu'on n'est pas content ou qu'on est content. Toutes les raisons sont bonnes pour sacrer, n'est-ce pas? N'oublions pas que celui dont on massacre le nom est le bien-aimé de Dieu, le Père, depuis toute l'éternité. Dieu est le Père de Jésus-Christ depuis toute l'éternité. Il aime parfaitement son Fils. Chers amis, toutes les voix de Dieu envers nous sont l'expression de la pure beauté de la relation paternelle de Dieu, le Père, avec son Fils. Parce que Dieu est Père et parce qu'il aime son Fils depuis toute l'éternité, il n'est pas surprenant qu'il nous a créés, nous, pour que nous soyons comme Christ. Est-ce que vous réalisez que si vous êtes un enfant du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, si vous êtes vraiment une chrétienne, que Dieu veut que vous soyez comme Jésus-Christ, pendant toute l'éternité, bien, on sert à jamais Dieu, on comprend des limites à cela, mais pendant toute l'éternité, nous ressemblerons à Jésus. Mais pendant toute l'éternité future, Dieu va exprimer envers nous aussi son amour. Et sachant que tout l'amour que nous connaissons dans notre expérience humaine, parents-enfants, mes enfants sont adoptés, ils sont maintenant des adultes avec leur propre famille, je suis privilégié en ce que mes enfants et mes petits-enfants demeurent quelques kilomètres de moi, puis je les vois très, très souvent. Les petits-enfants, 4-5 fois par jour, et justement, 3 de mes petits-enfants viennent passer 4 jours avec nous parce que leurs parents sont en vacances. Je les aime. Je suis toujours surpris que mes enfants m'aiment. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Mais moi, je sais que je les aime. Mes petits-enfants m'aiment. Si vous n'avez pas des grands-parents, des grands-enfants, des petits-enfants, vous ne savez pas ce qu'il vous manque, que je les aime. Et tout cet amour-là, parents-enfants, découle du fait que Dieu aime le Fils. Relation mère-femme, nos amitiés, nos frères et sœurs dans l'Église, toute cette relation d'amour-là découle du fait que Dieu le Père aime Dieu le Fils. Deuxième point, les 8 marches descendantes. Et on peut mettre 10 marches ou 7 marches, ce n'est pas important. Mais nous avons ici Jésus qui était si élevé, créateur, Dieu même, toujours dans la présence de son Père, toujours dans cette lien d'amour. Ah, c'est Augustin qui dit que le Père aime le Fils et c'est lié ensemble par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la définition même de la Trinité. Mais Jésus-Christ a quitté son Père. Puis il y a 8 marches descendantes qui sont décrites dans ce passage. Il y a d'abord, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme un poids à arracher. Puis deuxièmement, il s'est dépouillé lui-même. Puis troisièmement, il a pris la forme d'un serviteur. Puis quatrièmement, il est devenu semblable aux hommes. Puis cinquièmement, il a paru comme un vrai homme. Puis sixièmement, il s'est humilié lui-même. Puis sept, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort sur la croix, huitièmement. Regardons ces 8 marches de près. D'abord, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme un poids à arracher. Ce mot arracher veut dire peut-être s'accrocher. Il y a bien des années, dans l'église au Cap où j'étais ancien, on a décidé de refaire la couverture. Puis on était une église de collet bleu. Puis on a dit, on l'a fait nous-mêmes. Puis c'est pas mal à pic. Puis, j'étais sur la couverture, puis il avait commencé à pleuvoir un peu, puis il fallait le finir. Puis, c'était glissant, puis à un moment donné, j'ai tombé. Puis, c'est quand même un bâtiment de 2 étages. Puis, j'étais rendu sur la bord de la couverture en descendant. Puis là, j'ai agrippé la bord de la couverture avec mes angles. J'ai arraché deux angles, puis j'étais là, comme ça, jusqu'à ce que deux bonnes gros hommes viennent me prendre chacun un bras, puis m'ont ramené sur le toit. Puis je peux vous dire que j'étais accroché. Je sais qu'est-ce qui m'attendait en bas, deux pattes cassées au moins. Accroché, c'est le sens de ce mot-là. Puis, son égalité avec Dieu, Jésus ne s'est pas accroché à cela. Il s'est donné lui-même ses possessions, ses pouvoirs et ses privilèges. Le deuxième art, c'est qu'il s'est dépouillé lui-même. Puis, il s'est dépouillé lui-même, ça ne veut pas dire qu'il s'est dépouillé de sa divinité. Le mot « dépouillé » dans l'original est traduit dans Romains comme « annulé », en 1 Corinthiens comme « rendu vain ». Ça veut dire qu'il s'est dévêtu tempérément de sa divine gloire. Quand il a marché avec les hommes, on n'a pas vu qu'il était glorieux. Dieu habite une lumière inaccessible. Quand Ésaïe a vu Dieu, il est tombé à terre, il n'est pas le seul. Jean a vu le Christ glorieux et ressuscité, puis il est tombé à terre. Mais sur la terre, il s'est dévêtu temporairement de sa divine gloire. Il s'est dévêtu de son autorité divine indépendante, toujours obéissante. De l'exercice volontaire de certains de ses attributs. Certaines personnes vont dire que quand Jésus dit qu'il ne connaît pas l'heure de son retour, ça prouve qu'il n'est pas Dieu. Non, ça prouve simplement qu'il s'est dévêtu temporairement de certains de ses attributs. De ses richesses éternelles, il était pauvre. À un moment donné, il a dit, les renards dans leur tanière, puis les oiseaux en leur nid, le Fils de l'homme n'a même pas une maison. Quand il a voulu payer la taxe, il a fallu qu'il emprunte de l'argent. De riche, il est devenu pauvre pour nous, dit l'apôtre Paul. Sa relation intime face à face avec le Père. Jésus-Christ s'est dépouillé. Troisièmement, il a pris la forme d'un serviteur. Puis moi, si j'avais écrit cela, j'aurais pris un autre mot. Mais le même mot « morphée » qui parle de l'identité de Jésus-Christ avec son Père est utilisé encore ici par Paul pour nous dire qu'il a pris la forme d'un serviteur. Le mot « serviteur » est « polis », c'est le mot « esclave » dans l'original. Il a pris la forme d'un esclave, l'essence d'être un esclave. Un esclave dans tous les sens, il ne possédait rien. Pas de bijoux, pas de vêtements, pas d'or, pas de maison. Il a vécu dans une maison empruntée. Il est né dans une crèche empruntée. Il a prêché sur un bateau emprunté. Il a monté à Jérusalem sur un âne qu'il avait emprunté de quelqu'un. Il a été enterré dans une tombe qui a été empruntée. Il a pris la forme d'un esclave qui n'avait rien. Quatrièmement, il est devenu semblable aux hommes. Rendu comme une autre chose, pas juste en apparence, mais en réalité. Jésus-Christ est devenu un vrai homme dans tous les sens. Il est devenu le deuxième Adam, pas dans un sens de devenir semblable à un homme, avant la chute, mais un homme avec toutes les limites. Fragilité, les souffrances d'un homme déchu, il était fatigué, il avait faim, il avait soif. Il a souffert émotionnellement. Il est devenu un homme. Cinquièmement, il a paru comme un vrai homme, comme si ce n'était pas assez clair. Le quatrième point, il ajoute le cinquième comme un vrai homme. Ici, c'est le mot schéma, l'apparence, la façon dont les gens l'ont perçu. Et, chers amis, il a souffert aussi l'humiliation d'être considéré comme un simple homme. Lui qui était enterré des louanges des anges depuis l'éternité, apparu comme un simple homme. Ésaïe va nous dire, tant son visage était défiguré, tant son aspect différent de celui des fils de l'homme, il était méprisé puis abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Voilà, il est devenu un vrai homme. Aussi, le texte nous dit qu'il s'est humilié lui-même. S'abaisser, s'humilier. Voici celui que s'il ne s'était pas dépouillé, il créait facilement un système solaire pour une galaxie par sa seule parole, l'univers a existé. Il s'est humilié lui-même, a crié Paul. N'oublions pas cela. lorsque nous découvrons chez nous la moindre idée de s'imposer, de chercher nos propres intérêts, de vouloir rompre des liens de communion fraternelle, nous dit Paul Rees. Mais n'oublions pas le contexte, on n'a pas le temps de le regarder trop ce matin, mais dans Philippiens, le passage que notre sœur nous a lu, ça commence par dire « Ayez les mêmes sentiments en nous qui en étaient en Jésus-Christ ». Puis si Jésus-Christ s'est humilié, lui qui est Dieu, qui sommes-nous pour ne pas nous humilier? Pour qui nous nous prenons? Puis il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Mais pourquoi Jésus, là, sur la terre, qui s'est tellement humilié, lorsque c'est venu la croix, pourquoi il n'a pas crié, c'est assez? Fini, là, je ne vois pas plus loin. La mort, la différence ultime entre les hommes puis Dieu, entre hommes et anges, entre les hommes et les elfes de Tolkien aussi. Hein? La mort, il s'est rendu obéissant. Hébreux va nous dire, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et des larmes, des prières, des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a pris, bien qu'il fût fils, l'obéissance pour les choses qu'il a souffertes. Notons sur cela que le Fils est obéissant envers le Père depuis toute l'éternité passée. Les pères de l'Église avaient un terme pour cela, c'était taxis. Que depuis toute l'éternité, Dieu le Père en autorité et que Dieu le Fils est obéissant. Puis ça, ça n'a pas commencé avec l'incarnation, c'était depuis toute l'éternité passée. Puis Corinthiens nous enseigne, ça va continuer pendant toute l'éternité à l'avenir, que le Fils est obéissant envers le Père. Chers amis, le passage nous dit qu'il était obéissant jusqu'à la mort. Puis cette obéissance du Fils prouve que la soumission et l'obéissance ne sont pas dégradantes. Les Grecs disaient ceci, comment est-ce qu'on peut servir et être heureux? Ils n'avaient pas compris. Puis le Québécois moyen n'a pas compris cela aujourd'hui. Aujourd'hui, on pense qu'obéir, être soumis, c'est dégradant. Ce n'est pas vrai. Si Dieu, le Fils créateur de l'univers, deuxième personne de la Trinité, est obéissant et soumis à son Père depuis toute l'éternité, qui sommes-nous pour dire que c'est dégradant cela? Hein? Et, chers amis, toutes les relations dans notre société trouvent leur source dans cette obéissance du Fils. Relation mère-femme, relation parent-enfant, relation employeur-employé, les anciennes et les membres de l'Église, puis ainsi de suite. Toutes ces relations-là où il y a une certaine soumission, une certaine obéissance, ça découle de l'obéissance entre le Père, du Fils envers le Père. Et dans la grande controverse théologique aujourd'hui entre l'égalitarienne et la complémentaire dans la relation des femmes dans le service de l'Église, puis croyez-moi que je crois que les églises où les femmes ne servent pas et où on ne reconnaît pas le service des femmes, c'est une église qui va mourir. Les femmes sont douées. Mais il y a une différence entre le ministère des femmes et des hommes. Et cette différence, cette question d'obéissance et de soumission-là, chers amis, a ses racines dans la relation entre le Père et le Fils. Quand on a compris cela, ça devient un peu moins choquant. Enfin, dernière démarche, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus aurait pu mourir de plusieurs façons. Décapitation, c'était vite. Lapidation, on le mettait dans un trou, on échappait un gros roc sur la tête. Empoisonnement, comme Socrate est mort. Pendaison. Mais cette mort de la croix, réservée pour les esclaves, les plus criminels, les ennemis de l'État, inventée par les Perses, mise au point par les Romains, la mort la plus cruelle que possible, souvent ça durait des journées. Une mort de malédiction. De cette façon, le Christ a porté la malédiction qui est pesée contre nous. Et sur la croix, Dieu l'a traité comme si elle avait commis tous les péchés commis par moi et par vous, puis sur chaque humain qui sera sauvé. Le Fils de l'homme est mort comme notre sacrifice. Mais ça ne finit pas là. Il y a remonté. Un troisième point. Il y a sa résurrection. Il y a son ascension, il y a son couronnement, puis il y a son intercession. dans ce passage. C'est pourquoi, pour cette raison, Dieu l'a souverainement élevé, monté au-dessus, monté au-dessus. Et il a déclaré par la résurrection d'être le Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté. Quand Jésus-Christ est ressuscité entre les morts, c'était la preuve que Dieu le Père a accepté son sacrifice, qu'il était satisfait. Et c'est la plus grande démonstration de la puissance de Dieu dans l'histoire de l'univers. J'ai fait le service militaire. J'aime les fusils. Toutes les fois que je vois un fusil qui amène un satellite dans l'espace, je suis étonné. Puis là, on parle d'aller sur la Lune, on parle d'aller sur Mars. C'est intéressant. Quelle puissance ces rochers, ces fusils. Mais c'est rien de ça à comparer de la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ. L'infini de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Puis vous savez que le chapitre 2 d'Éphésiens commence avec « et nous ». Et dans un sens vraiment réel, quand Dieu a ressuscité Jésus-Christ, nous sommes ressuscités avec lui. Et troisièmement, la remontée, son couronnement. Tout pouvoir m'a été donné, dit le Christ ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Dans la culture du temps, la personne assise à la droite de l'empereur était dans une position d'estime, d'autorité, de puissance. Dieu l'a exalté par sa main droite. Comme prince et sauveur, Jésus aujourd'hui est exalté. Et son intercession. Ça m'étonne que ce Christ ressuscité qui règne, qui est héritier de tout l'univers, Dieu le Créateur, deuxième personne de la Trinité, il est à la droite de Dieu. Puis une de ses préoccupations, c'est qu'il intercède pour nous. On a posé la question tantôt, qu'est-ce que Dieu faisait avant que l'univers soit créé? Mais je sais qu'est-ce que parmi les choses que Jésus-Christ fait maintenant. En ce moment, Jésus-Christ, là, est devant le Père, puis intercède pour moi. Puis juste intercéder pour moi, ça doit être un job à temps plein. Étant toujours vivant pour intercéder pour nous, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sauveur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux. Oh, quel sauveur que nous avons. Son nouveau nom, le nom au-dessous de tout nom, ce nouveau nom, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Christ, mais c'est Seigneur, Kyrios dans l'original, mais représente souvent l'utilisation de Yahvé, Jéhovah dans l'Ancien Testament, dans le Septant. Il est Seigneur, il est Dieu. Conclusion. Puis je vous confesse qu'il y a toutes sortes de choses qu'on aurait pu dire sur Jésus-Christ. Même si je prêcherais pour 5 heures, pendant 5 jours, pendant 5 ans, on ne pourrait pas tout épulser le sujet. Mais ce matin, j'aimerais tirer des conclusions pour nous, pour nos vies personnelles. D'abord, est-ce que j'aime mon conjoint, ma conjointe, comme Christ m'a aimé? Marié depuis 44 ans, j'ai la meilleure femme au monde. Est-ce que je l'aime vraiment? Le taux de divorce dans notre société est épeurant. Moi, je crois que le diable sait que s'il peut détruire la société que Dieu a créée, qu'il va avoir détruit l'humanité. Et la base de la société, la fondation de la société, c'est le mariage. Puis on vit au Québec, puis on sait que le mariage est méprisé, étonnant. J'ai le privilège de voir célébrer 300 mariages dans ma vie, puis combien de fois des invités ont dit « il n'y a pas de mariage ». Il y a 4 ans, le directeur des registres civils m'a appelé et dit, « Monsieur, vous avez célébré 25 mariages cette année. Qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous en train de faire des mariages là, pour les personnes qui veulent venir au Canada, des mariages temporaires? Personne ne fait 25 mariages dans une année. Ça n'existe plus. » Je l'ai invité à venir voir mes dossiers. Chers amis, je réalise que des fois le divorce même si ce n'est pas le désir de Dieu, ça l'arrive. Puis il y a certainement des personnes qui sont victimes de divorce ici, puis il y a certaines des personnes ici qui sont divorcées puis qui regrettent ce qui est arrivé. Je ne veux pas vous culpabiliser. Mais j'aimerais simplement vous dire que si on obéissait aux Écritures, puis si on suivait le modèle où Dieu aime le Fils et le Fils aime l'Église, puis les maris aiment leurs femmes quand Christ aime l'Église, qu'il y aura beaucoup moins de divorces. Est-ce que j'aime mes sœurs et mes frères dans l'Église locale comme Christ m'a aimé? Les Églises ne sont pas parfaites, puis vos frères et vos sœurs dans l'Église ici ne sont pas parfaits non plus. Puis si on les aime vraiment, vous qui êtes ici, mes frères et mes sœurs, Christ vous a aimé. Qui suis-je, moi, pour vous haïr, pour vous mépriser? Si on aimait nos frères et nos sœurs en disant que Christ les aime. Je vous pose une question. Est-ce que j'ose utiliser le beau nom de Jésus-Christ comme sac? J'ai travaillé dans l'industrie un peu. Je sais qu'est-ce que c'est de m'asseoir dans un bureau pas loin de quelqu'un qui est sacré continuellement. Puis on utilise. Puis nous, les Québécois, on est connus pour cela. Hein? Savez-vous comment on nous appelle au Mexique? Savez-vous qu'est-ce que c'est un Québécois au Mexique? C'est un tabernacos. C'est comme ça qu'on nous appelle. On est connus pour cela. Puis, chers amis, le beau nom de Jésus, le beau nom du Christ, on l'utilise comme ça. Est-ce que vous le permettez, vous? Vous l'insultez? Comment osez-vous? Un jour, mon père était chef dans la marine et on était 10 enfants, 7 fils, 3 filles, puis on était toute une gang. Et mon père était souvent parti en mer. Ma mère ne faisait pas 5 pieds. Elle avait un balai, par exemple. Puis... Une fois, j'ai osé insulter ma mère. J'avais à peu près 13 ans. Puis j'avais oublié que mon père était dans le salon. J'ai rapidement découvert qu'il était dans le salon. Il y avait 2 péchés mortels chez nous. Être impoli avec notre mère, puis être tannant l'Église. Puis, mon père avait 700 hommes sous ses ordres sur un porte-avions, puis ses 7 fils étaient sous ses ordres aussi, puis j'ai goûté. Parce que j'avais osé goûter. Ça, c'est ta mère. Tu ne parles pas ta mère comme ça. C'est ta mère, tu le traites avec respect, tu parles avec respect. Ça fait plus que 55 ans, cela. Ah, je m'en souviens encore. Mes chers amis, Jésus-Christ, nous avons découvert qui qu'il est. Faisons attention de comment on parle de lui. Est-ce que je comprends vraiment le coût que Dieu a payé pour me sauver? C'est lui qui est mort sur la croix pour moi. C'est celui qui est aimé depuis l'éternité, depuis son Père. Est-ce que vous comprenez combien que Dieu a payé pour que vous soyez sauvés? Oh, est-ce que j'aime vraiment Jésus-Christ? J'aime ma femme. Je fais beaucoup de cours de préparation de mariage, moi, aujourd'hui. Puis je dis toujours aux jeunes hommes, je suis hypocrite des fois. Des fois, je suis ici, là, avec mon épouse, puis je donne des cours de préparation de mariage avec elle. Puis des fois, elle dit pas un mot. Mais elle m'écoute, puis elle sourit à l'intérieur. Je dis aux jeunes hommes, à tous les jours, trouvez un moyen de dire à ta femme que tu l'aimes à tous les jours. Moi, je ne fais pas ça, moi, mais je le dis aux autres. Hein? Oh, chers amis, cette passion d'aimer ma femme, c'est important pour moi depuis 44 ans. Mais combien davantage notre passion de démontrer notre amour pour Jésus-Christ doit être une priorité de notre vie. Je termine avec une histoire. Il y a bien des années, en Russie, sur les plaines, il y avait une tribu de Cossacks. Ces Cossacks sont des guerriers féroces. Même aujourd'hui, on a peur des Cossacks. Poutine a peur des Cossacks. Avec raison. Féroce. Et dans cette tribu, il y avait un chef qui était très respecté, juste, équitable, mais sévère dans ses jugements. Puis dans le village, où il y avait beaucoup de pauvreté, il y avait un voleur. Quelqu'un qui volait les biens qui ne lui appartenaient pas. Puis dans une société pauvre, c'était des biens essentiels parfois. On essaie de le découvrir, puis on ne le trouve pas. Puis après quelques mois de cela, le chef a appelé tout le village ensemble, puis il a dit, « Si je trouve celui qui fait les vols, il va avoir 40 coups de fouette attachés à un poteau. Il faut régler ça dans notre ville. » Les semaines passent. Les vols continuent, on ne découvre pas le voleur. Puis à un moment donné, on découvre celle qui vole, on le trouve en flagrant délit. C'était la maman du chef. On l'a amené. Le coutume était devant les portes du village en jugement. Puis on s'est posé la question, que ferait-il cette chef juste, cette chef sévère? Que ferait-il? Il a regardé sa mère avec des pleurs dans les yeux, puis il l'a condamnée à 40 coups de fouette, parce qu'elle était juste, puis il fallait qu'elle soit punie. Ensuite, il s'est levé, il s'est enlevé la chemise, il est allé se présenter devant le poteau, puis il a reçu lui-même les 40 coups de fouette. Il était sévère, puis juste dans son jugement, parce que le péché doit être puni. Mais il est descendu de sa trône de majesté pour recevoir lui-même la punition qu'il avait imposée à sa mère. Puis dans un sens, c'est ça que Dieu a fait. Cette Christ dont on a parlé ce matin, cette Christ magnifique créateur, Dieu égal avec Dieu, ce Christ-là est le juge de l'univers, puis il va punir le péché. Votre péché mérite d'être puni, puis Dieu est juste, puis il va le punir. Puis Jésus est descendu de son trône. Il a vécu comme un simple homme, il a pris sur lui chair, il est devenu un homme, il est allé sur la croix. Puis sur la croix, il a payé le prix de votre péché. Dieu l'appelle à traiter comme s'il avait commis vos péchés à vous. Puis aujourd'hui, je vais vous poser la question, avez-vous accepté le sacrifice de Jésus-Christ pour vous? Est-ce que vous vous êtes donné à Jésus comme maître de votre vie? Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi que vous n'aimez pas Jésus? Dieu a tout fait pour vous. Qu'est-ce que vous attendez pour recevoir Jésus? Si après la réunion, vous voudrez parler avec des responsables de l'Église, parler avec moi, rien ne sera plus important pour nous. C'est peut-être aujourd'hui que vous devez recevoir le Christ. Nous prions. Grand Dieu, merci pour Jésus. Oh, que ton Fils est magnifique. Oh, que nous l'aimons. Nous te tournons vers toi et nous t'adorons. Et Seigneur, nous te remercions pour qui Jésus est. Aide-nous à l'aimer davantage, aide-nous à l'apprécier davantage. Et pour celui, pour celle qui est ici aujourd'hui, qui ne connaît pas Jésus encore comme sauveur et comme maître, que ce soit aujourd'hui que cette personne demande de l'aide et reçoive Jésus. On demande ces choses au nom de Jésus. Amen.